Oui, c'est ça, effectivement. Sur les chapeaux de roue, c'est effectivement le mot. Hein. La semaine qui a précédé, en fait, a été aussi assez perturbée. Hein. Il y avait pas mal de vent qui correspondait à la vague de froid que vous avez eue ici, en France et en Suisse. Et puis, effectivement, c'est parti assez fort. Alors, disons que nous, on a été aussi assez prudents. On est parti un petit peu à la Suisse, hein, avec toutes les garanties. Ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas eu de casse, mais c'est vrai que c'était fort. Ouais.
De la casse plutôt vers la fin, ça veut dire que c'est inévitable, parce que c'est une course qui est quand même parfois bien agitée.
Ouais, c'est un sport mécanique, hein, donc de toute façon, il faut compter avec des petits problèmes en cours de route, quoi. Au Vendée Globe, on va pas se comparer, hein, mais au Vendée Globe, on dit un emmerdement par jour. c'était un petit peu ça, mais disons qu'on en a eu un gros milieu et certains autres.
Du style, c'était quoi alors?
Pardon?
C'était quoi?
On a cassé la baume, en fait, hein, qui est la partie qui tient la grand voile en bas.
Ouais, ouais.
Et voilà, ça, elle s'est brisée le jeudi avant d'arriver. Donc, c'était quand même une assez grosse casse. Il a fallu trouver un petit peu des solutions pour continuer à naviguer. Mais voilà. Mais sinon, on a eu des petits pépins par-ci par-là, quoi. Des cordages, des choses comme ça.
Nedelko, quand cette baume se brise, c'est quoi la première réaction? C'est-à-dire, purée, tout est foutu? Ou alors, tout de suite, on a quand même un peu optimiste pour dire, on va voir, on va s'en sortir?
Ah non, c'était le désarroi total pendant, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de minutes où on a regardé la pièce, on ne croyait pas. Après, on a commencé à réfléchir et puis, ben, Olivier, surtout, il a trouvé des solutions pour fixer un peu la partie cassée pour qu'elle ne branle pas et puis qu'elle casse et déchire pas plus loin. Et puis, ensuite, on a fait un système de poulie pour tant bien que mal étarquer la grande voile. Mais le résultat final, c'était qu'on avait perdu à peu près 10 à 15% de vitesse définitivement, avec manque de stabilité de bateau, etc.
C'était risqué de réparer au milieu de l'océan?
C'est clair, parce qu'il y avait passé 40 nœuds de vent, par moment même 50 nœuds de vent. Il fallait se mettre sur la pointe des pieds. C'était...
c'était du très, sport.
Mais c'était très acrobatique et puis très, disons, très dangereux aussi.
Ça a fait donc une petite réparation de fortune, mais est-ce que quand on part avant, on doit se dire, alors peut-être qu'il peut nous arriver ça, je dois prendre un bout de corde pour pouvoir éventuellement justement faire ces réparations de fortune. Est-ce que vous pensez à ça avant?
Oui, alors on s'équipe quand même pas mal. Hein. On a pas mal d'outillage, de pièces de rechange. On essaye de prévoir un maximum de choses. Et disons qu'on a chaque fois eu le matériel nécessaire pour pouvoir faire face à des situations un petit peu inattendues, quoi. Mais d'ailleurs, j'aimerais souligner ici une chose, c'est qu'on était deux pour cette course. Il y en a qui le font en solitaire. Et ce genre de casse en solitaire, j'ose pas imaginer comment on s'en sort. Parce que être deux dans ces conditions-là, ça a vraiment été quelque chose de vraiment rassurant, quoi.
Vital même. Quelque chose de vital?
Vital, peut-être pas, mais en solitaire, simplement ce qu'on a fait à deux, moi j'aurais pas pu le faire par exemple tout seul.
Il peut y avoir des moments de tension quand même quand on est à deux justement et qu'il arrive ça et qu'on doit agir quand même relativement vite.
Bon, je dirais pas de tension.
Mais... Non, je pense qu'il n'y avait pas de tension. Il y avait, disons, on était les deux tendus, c'est clair, parce qu'on savait pas. Comment ça finir? Est-ce que la grande voile va se déchirer? Ce qui aurait signifié vraiment la fin de la course. Donc après, voilà, 3-4 heures plus tard, quand on a fait la réparation, ben, voilà, on était anéantis dans la cabine, on s'est regardé et puis, et puis on s'est demandé surtout qu'est-ce qu'on fait ici.
Bon, ben après le 26 février, il y a eu le soulagement. Vous passez la ligne d'arrivée en Martinique. C'est quoi le sentiment au moment de passer cette ligne d'arrivée quand on voit ces plages martiniquaises devant soi?
Ben, c'est clair que c'était un immense bonheur, soulagement. On était, je pense, extrêmement fatigués les deux. Parce qu'on se donnait, même si le bateau n'était pas à 100%, on se donnait à plus que 100%. On est arrivé vraiment au bout de force. Et puis, voilà, après, il y avait ça, c'est clair, un petit sentiment de frustration parce qu'on a mis un jour de plus. Donc, en 5 jours restants, quand on a eu la casse, on a mis un jour de plus que les autres. Puis les autres, surtout la deuxième partie de flotte, on les rattrapait tous. Donc, voilà, ça c'est clair, il y a cet aspect-là.
Un petit pincement au cœur.
Exactement, mais finalement, on n'a pas fait un si mauvais résultat d'un côté, puis ça c'est un immense exploit de faire la traversée, puis de faire dans les bonnes conditions. On avait quand même une édition extrêmement difficile. Voilà, donc c'était, je pense, un franc succès pour nous.
39e, hein, c'est le rang auquel vous avez terminé cette course. Le classement, c'était quelque chose d'important ou alors l'important, c'était d'arriver à la Martinique et puis de réussir cette traversée?
Oui, alors on s'était mis 3 objectifs en fait. Le premier, c'était d'arriver de l'autre côté. Le deuxième, c'était de prendre du plaisir au maximum. Et puis le troisième, d'essayer de faire un résultat, on va dire, de faire le mieux possible. Alors pour les deux premiers, ben on est relativement content. Pour le troisième, c'est vrai qu'il y a une petite frustration, mais si je reviens justement à la question précédente là et à l'arrivée, ça a été aussi beaucoup d'émotions. Hein. On a des amis de Neuchâtel qui sont venus à la Martinique et aussi à Madère. On les a vus à Madère, on les a vus à la Martinique et d'autres Neuchâtelois qui nous ont retrouvés à la Martinique. Et ça, je peux vous dire que ça met un petit peu, un petit peu là. On a un peu la gorge serrée, quoi.
Alors, cette course, elle est née en 1993. Le but, c'est de permettre de participer à une régate transatlantique, mais à des budgets plus raisonnables, on va dire, que les grandes courses médiatiques comme la Route du Rhum, par exemple. Mais tout de même, messieurs, il y a un investissement en temps, un investissement financier important aussi pour pouvoir participer à cette course.
Oui, les deux, hein. Ça coûte quand même assez cher et... il y a pas mal de travail autour, aussi bon, de la préparation, mais ça c'est le plaisir de naviguer. Mais c'est quand même assez considérable, on va dire.
On apprend sur l'autre, on apprend sur soi-même aussi lorsqu'on s'embarque pour une telle course.
C'est clair. Disons, ce qui est important quand on s'embarque dans l'aventure pareille, c'est que il faut vraiment avoir un égard et considération pour l'autre. On est, disons, totalement différents, Olivier et moi, mais je pense qu'on avait eu les deux, l'intelligence et puis, disons, savoir-faire pour s'adapter un peu à l'autre. Et puis, finalement, ça s'est passé vraiment bien.
Plus de 15 jours sur une embarcation pas très grande, en tête-à-tête, c'est toujours facile? C'est quoi les sujets de discussion? Ou les sujets de désaccord?
Ah ben, on avait principalement 3 sujets de discussion. voile et voile. Non, vous savez, les premiers 2-3 jours, on est encore un peu euphorique, en forme, etc. Et puis plus le temps passe, plus on a juste envie de se reposer un peu, si on peut. C'était pas toujours le cas. Voilà, donc il y avait les imprévus, les grands, donc il fallait réagir tout soudain. Donc on se lève de 10 minutes, 15 minutes de sommeil. Voilà, donc ça c'est vraiment, il faut avoir beaucoup d'égards pour l'autre. Et puis il y a une injustice qui se crée avec le temps parce que l'autre, il a pu faire 2 quarts de dormir. Et puis moi, les 2 fois, quand c'était moi qui se levais et le contraire. Donc si on s'engouffre là-dedans, si on s'enlise, ben ça c'est clair que ça va pas. Donc
on fait des comptes d'apothicaire sur les heures de sommeil non, de l'un et de l'autre.
Voilà, ça c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Et puis on l'a pas fait.
Non, ça se fait tout seul en fait. Mais C'est vrai qu'on a eu deux ou trois journées, et puis en tout cas deux nuits dont je me souviens, où les conditions étaient vraiment idéales et où on pouvait vraiment bien dormir, bien se reposer l'un et l'autre. Mais seulement, reste du temps, la météo a été assez perturbée, la mer a été assez difficile, et puis c'est vrai que finalement, on ne fait que se croiser. Mais c'est vrai que quand on navigue à deux, comme ça, en fait, il y a le bateau, les voiles, le réglage et tout ça, mais il y a surtout un équipier. Puis c'est vrai, la chose la plus importante du bateau, c'est l'équipier. On s'est très vite mis dans cette logique-là.
Et les courses comme la Transquadra ou d'autres aussi, c'est également des rencontres avec d'autres marins, j'imagine. Alors peut-être pendant la course, c'est peut-être un peu difficile de discuter avec d'autres marins, mais peut-être avant ou après, ça apporte aussi quelque chose.
Ouais, alors ça, c'est génial, justement. Effectivement, c'est, quand on croise un bateau la nuit, qu'on le voit apparaître sur l'écran et qu'on commence à parler un petit peu à la VHF, il y a des liens tout à fait particulier qui s'établissent, et puis justement de les retrouver à l'arrivée, ça a été vraiment vraiment quelque chose, une découverte, et vraiment quelque chose de très sympa, hein. Je pense que tu es aussi d'accord,
hein. Oui, tout à fait, c'était c'était avant, il y a tout un tas de complicité qui se crée entre les gens, surtout que en démarrant, disons, amateur, c'était le propriétaire de chantier qui fournit le plus de bateaux, ouais, comme il est amateur. Et puis il donnait beaucoup de conseils, il était très disponible, il y avait d'autres aussi. Et puis, c'est clair que quand on fait quelques mots comme ça, peut-être ça dure deux ou trois minutes seulement en VHF, mais ça fait énormément plaisir. Et puis surtout quand on s'est vu à Marin à la fin, c'était « Ah, c'est toi, ah, c'est bien !» Voilà, c'était vraiment sympa.
Pour la petite histoire, quand on a cassé la baume, justement, il y avait assez proche de nous un bateau qui, avec lequel on a partagé aussi quelques petits échanges en VHF deux jours avant. Et ils sont restés à côté de nous. Alors on a pu communiquer, on a pu dire qu'on avait cassé la baume, qu'on essayait de voir pour réparer et tout ça. Enfin, et ils nous ont soutenus moralement et tout. C'était vraiment, vraiment sympa. Et pendant tout le coup de vent, ils sont restés à côté de nous.
Alors
je ne sais pas. Je sais pas si eux, ils ont ralenti exprès pour rester à proximité.
Oui, ils m'ont dit après.
Ça, c'est vraiment chouette, ça.
Très, très rapidement, on sent que ces souvenirs sont encore très présents. Je crois qu'il y a environ un mois que vous êtes rentré. Comment vous ressentez le retour, les premiers jours que vous êtes à la maison?
Alors, moi, catastrophiquement.
Ah oui,
dodo. Voilà, j'ai recommencé à travailler. Donc, on est rentré dimanche à 3-4 heures d'après-midi. Lundi matin, j'étais au taquet au travail. Et puis, ça n'a pas arrêté. Et puis, voilà, c'était juste...
La fin de la parenthèse enchantée.
Ah oui, au bout de 10 jours, j'étais le week-end de garde. Alors, voilà, c'était très dur. Et puis, je regrettais beaucoup de ne pas pouvoir continuer une autre régate ou un séjour à Martinique ou autre.
C'était aussi dormir. Et puis, c'est vrai, la première semaine pour moi aussi en pilotage automatique.
Comme quand la mer est d'huile, exact. Et le permet.
Voilà.
Nedelko, Olivier, on vous remercie beaucoup d'être venu ce matin dans Format 3 évoquer cette Transquadra. Et puis, on espère que vous reprendrez la mer très très bientôt. Belle journée.
Merci à vous.
Merci d'être venu. À bientôt.